Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Cela fait 3 ans maintenant qu'Inès Leroux s'est installée en Bretagne, dans la commune de Mael-Pestivien, au cœur des Côtes d'Armor. 20 épisodes de son journal breton ont exploré à fond les principales activités de la Bretagne, l'agriculture et l'agroalimentaire, ainsi que les types de relations sociales qui se jouent autour. L'année dernière, à la même période, l'épisode 1 de la deuxième saison racontait notamment la disparition des petits commerces à Mael-Pestivien et le vieillissement de la population. Inès partait à la rencontre de ses voisins qui étaient en train de mettre la clé sous la porte à la suite de la crise du lait. La dernière traite de leur troupeau a eu lieu cet été, l'étable est désormais vide. Depuis le 1er septembre de cette année, par contre, bonne nouvelle, les pesticides néonicotinoïdes sont désormais bannis en France pour protéger, entre autres, les colonies d'abeilles. Ils sont néanmoins utilisables sur dérogation jusqu'au 1er juillet 2020. Et cet été, les apiculteurs de Bretagne s'étaient justement révoltés à ce sujet, et c'est leur triste condition qu'aborde ce nouvel épisode avec Jean-Daniel Bourdonnais et José Nadan, tous deux fils d'agriculteurs intensifs bretons et apiculteurs. L'autre mouvement profond, ce sont les arrivées de nouveaux habitants venus de toute la France et même d'Europe pour vivre en Bretagne intérieure où les logements sont parmi les moins chers de France. C'est le cas de Julie qui a fait 1000 km pour venir s'installer dans la petite commune de Mael-Pestivien où elle loue un appartement vacant depuis 2 ans et elle a choisi de devenir ouvrière agricole dans une exploitation conventionnelle. C'est donc tout de suite le premier des 2 épilogues du journal breton qui n'est jamais vraiment fini par Inès Leroux et Emmanuel Geoffroy.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Jean-Daniel Bourdonnais, j'ai 41 ans, j'habite à Glomel, sur la commune de Glomel, à Trégornan. Et j'ai 2 enfants et je suis marié.
Jean-Daniel est apiculteur.
Alors je t'ouvre la clôture.
Merci.
Pour que je puisse passer.
Il a 70 ruches dispersées dans la campagne autour de Rostrenin.
Alors on rentre dans une prairie, on est sur la ferme du Buissonnant, en Plougarnével. C'est une ferme qui est nouvellement installée et qui est installée en bio. Et je trouvais cet endroit idyllique. Je me disais vraiment là, les abeilles vont pouvoir aller dans la forêt, elles ont des champs en bio devant. Mais juste à côté, là en face on a un champ de maïs qui est à 500 mètres. Le maïs qui a vraiment un problème parce qu'il est traité contre une mouche en fait qui s'attaque au maïs, qui va pondre dans le maïs et la larve va creuser le maïs en fait. Et donc pour se protéger de cette mouche là en fait, le grain est enrobé d'une substance, un néonicotinoïde, et ce qui fait que la substance, on va la retrouver dans les fleurs, sur les bords des feuilles. Quand il y a de la cutation, c'est un peu de la transpiration de plantes, et on va retrouver ça dans le pollen. Et ça, c'est vraiment un gros problème parce que les abeilles, elles vont venir se nourrir de ça. Si elles prennent la petite goutte de cutation, c'est foutu. De toute façon, elles sont tellement désorientées qu'elles rentreront pas à la ruche, quoi. Donc, au mieux, elles reviennent à la ruche, mais avec du pollen toxique, quoi. L'hiver a été vraiment fatal. C'est là où on voit, où on fait le bilan des courses. En général, c'est au printemps, après l'hiver, après l'hivernage. J'ai perdu un tiers, où on voit bien que la reine ne pond pas comme elle devrait pondre. Un tiers de mort, puis un tiers de correct, quoi.
Vous avez en gros perdu 2 tiers de votre cheptel. Et là, on voit vos ruches. Elles sont là ?
C'est ça, on voit ce qu'il en reste. Hein, parce que là, j'avais une bonne quinzaine de ruches dans ce rucher-là. Et là, il y en a 4, mais c'est même pas 4 parce que la ruche qui est là, elle est bourdonneuse. Donc en fait, c'est 3.
Bourdonneuse, ça veut dire improductive.
Malheureusement. Et là, il y en aurait dû en avoir une bonne quinzaine et qui auraient dû être en pleine forme. Et qui ne sont pas du tout. Quand j'ai découvert l'ampleur des dégâts, on reste bête en fait. On est très déçus. parce qu'on se dit bah là, j'ai passé mon année à bosser et puis finalement pour un résultat qui est nul. Après on se dit bah qu'est-ce que j'ai loupé, et puis après on est en colère contre ces grands groupes là qui produisent de la mort quoi quelque part. Enfin, on aimerait que les agriculteurs en tout cas arrivent à se défaire de ces systèmes là, même si c'est très compliqué. Moi je jette pas la pierre forcément direct aux agriculteurs, même si ça m'est arrivé d'avoir quelques altercations. J'ai eu une altercation une fois avec un agriculteur qui traitait un champ de colza qui était en fleurs, et en plus il n'y a pas le droit de le faire. Donc du coup je vais dans le champ, je commence à le prendre en photo du haut du talus, donc il n'apprécie pas du tout. J'ai pris des photos pour qu'il se dise oh là là, tiens là il a des preuves, tu vois, faut que je fasse attention à ce que je fais. Et il a traversé, il est venu vers moi, et puis là on a commencé à discuter un petit peu, mais c'était compliqué. Je lui disais qu'il n'avait pas le droit de le faire. Que c'était contre-productif parce que les abeilles allaient aussi améliorer son rendement quelque part, parce qu'elles vont polliniser le colza, c'est vraiment une source intéressante au printemps. Et on participe aussi au rendement agricole, quoi. Et j'essaie de lui dire aussi que, enfin, si moi je donne des produits à mes abeilles qui vont aller chez deux agriculteurs et puis tuer les deux tiers de leur cheptel, mais là c'est tous les syndicats qui vont tomber dessus, c'est toute la filière qui va se réveiller et qui va lutter contre ça. Et je pense que la réaction, elle sera ultra violente.
C'est quoi ? Il élève quoi, lui ?
Il est porché.
Il a des porcs ?
Ouais, ouais.
S'il y avait les deux tiers de ses porcs qui étaient morts ?
Ben, bien sûr. Je trouve qu'il y a un manque de considération des apiculteurs qui sont aussi des professionnels de l'agriculture.
Qu'est-ce qui vous a répondu quand vous lui avez dit ça, cet agriculteur ?
Que voulez-vous qu'on réponde à ça ? C'est une vérité qui est trop violente à accepter. C'est une vérité qui fait remettre en cause toute leur façon de travailler depuis les 35-40 dernières années pour eux, quoi. Ils ont la tête tellement dans le guidon qu'ils ne considèrent plus ça, en fait. Et les liens économiques qu'ils subissent tout au long de leur carrière, quoi. C'est des prêts relais, c'est investir, sinon on paye trop de charges. C'est toujours la course à l'échalote, essayer de courir devant, cours devant, et surtout on ne s'arrête pas pour réfléchir, quoi.
Et ça s'est terminé comment, votre conversation ?
Eh bah, ben salut, au revoir, et voilà. Et puis après, on ne parlait plus pendant quelques semaines, mais...
Et il vous a plus parlé ?
Bah non. Plus de salut en voiture, rien. C'est dommage, hein. Moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, c'est plutôt essayer de discuter, quoi. Et... Donc là, je me suis rapproché un peu des copains apiculteurs qui ont. Et alors là, qu'on soit en conventionnel, en bio ou amateur, on a exactement les mêmes symptômes. Ça veut dire que c'est pas la pratique de certains apiculteurs qui pourrait être mise en cause. On voit bien que c'est une tendance générale et que ça va pas en s'améliorant.
Finalement, vous allez découvrir que c'est le tiers des abeilles de Bretagne qui est mort.
Au moins 20 000 ruches de parties, mais à mon avis beaucoup plus, parce que tout le monde n'a pas déclaré ses ruches non plus. Enfin voilà, et puis il y a toutes les abeilles sauvages, il y a toutes les abeilles domestiques qui sont dans les troncs d'arbres et tout ça, dans les maisons. Celles-là, on les compte pas, en fait. Et là, on en est tous à avoir la psychose du printemps de l'année prochaine, à se dire, à serrer les fesses, à aller ouvrir les ruches, voir... Certains apiculteurs me racontaient cette année, là, quand ils ont fait leur visite, mais c'était le silence, quoi. D'habitude, on va dans les ruchers, ça vrombite partout, quoi. On entend que ça bourdonne, quoi. C'est vivant. Et là, voilà, on entend le vent, la rivière qui coule en bas, voilà. C'est tout.
José Nadan, moi je suis apiculteur professionnel au FAWAD, dans le Morbihan, depuis environ 35 ans. J'ai environ 600 ruches. Donc on s'était habitué un peu à trouver des pertes en sortie d'hiver et puis même un peu tout au long de l'année, mais cette année ça a atteint un niveau que je n'avais jamais vu jusque-là, puisque moi j'arrivais à peu près à 50% de pertes, quoi. Ça fait mal, hein, quand on arrive dans un rucher comme ça, une belle journée, et puis qu'on s'attend à avoir de l'activité, de la vie dans les ruches, et puis qu'on trouve que des ruches quasiment moribondes, qu'on trouve un rucher comme ça, un deuxième, un troisième. Ben, si on en fait trois dans la journée, on a bien envie de rentrer et puis d'arrêter, parce que ça fout un sale coup au moral quand même. Mmh. Donc moi je me disais, bon la situation est grave, et si j'ai commencé à bouger c'est aussi parce que j'ai eu des coups de fil donc de collègues plus jeunes qui étaient à 70 ou 80% de pertes et qui eux donc étaient dans une situation économique où ils ne pouvaient plus s'en sortir quoi. Je me suis dit moi j'ai un peu plus de temps, j'ai un saisonnier, je vais prendre mon vélo et puis je pars à vélo comme ça du Fawet à Rennes avec moi, donc j'avais prévu une petite remorque là et j'avais prévu des témoignages d'apiculteurs parce que c'est assez poignant quand on voit les apiculteurs qui ont investi, qui se sont donnés à fond pendant quelques années, quelquefois sans prendre de salaire, en vivant sur le salaire du conjoint pour créer leur entreprise, et que du jour au lendemain ils perdent presque tout comme ça. Et j'ai lancé l'idée je crois à l'issue d'une réunion à 10h ou 11h un soir. Et puis aussitôt, il y a des collègues qui ont proposé de m'accompagner. Et donc, il y a eu un collègue qui est venu avec un camion là, chargé de ruches mortes, dans le convoi mortuaire, donc avec des gerbes autour. Donc, on a fait ça sur 5 étapes, 5 jours. Donc, quand on arrivait quelque part, on se faisait héberger par la population. On a eu un très, très bon accueil partout. On a été reçus aussi par les municipalités de chaque ville où on a fait étape. Toujours un très bon accueil, un pot en arrivant, beaucoup d'échanges, des débats. Donc on comptait sur le ministère de l'Agriculture quand même pour obtenir des aides par rapport aux préjudices subis par les collègues. Là, on a été un peu déçus. Bon, ce sont surtout des aides d'investissement pour que les apiculteurs puissent reconstituer leur cheptel, quoi, des aides à l'achat des seins. C'est qu'une partie du rachat des seins. Ça fait que les apiculteurs les plus touchés, il faut quand même qu'ils puissent avancer une partie des fonds. Donc il y a un problème actuellement qui est presque insoluble pour certains collègues. Quoi. Actuellement, ces substances, ce sont les substances les plus vendues dans le monde et tout l'environnement est contaminé. Quand on analyse des pissenlits, des fleurs de saule, de châtaignier ou autre, on trouve actuellement des néonicotinoïdes, quoi. Les néonicotinoïdes, on n'arrête pas de dire qu'ils sont dangereux. Leur interdiction a déjà été votée depuis un moment. Mais en attendant, même depuis les votes, les quantités continuent à augmenter. Ce sont des substances aussi qui sont très rémanentes. Ça fait qu'il y a les produits qu'on a utilisés cette année, donc en plus grosse quantité, mais il y a aussi ce qui reste dans le sol de l'année passée. Donc tout ça se cumule. Et il y aurait aussi peut-être d'autres molécules. On a entendu parler d'une molécule là où il y avait eu une alerte de la part des vétos, une molécule qui a été utilisée dans les élevages avicoles. Est-ce que ça pourrait être aussi la cause de certaines mortalités? Ce sont des questions qu'on a posées, mais pour le moment, il n'y a aucune enquête à ma connaissance de fait dans ce sens. Quoi. Il n'y a pas de volonté de l'État de réellement chercher la cause de ces problèmes. Hein. Depuis le Grenelle de l'environnement, où ça devait baisser de 50%, on voit que malgré ça, les ventes continuent à augmenter. Donc c'est assez triste. Et souvent, le seul gagnant à l'utilisation de ces produits, ce sont les firmes chimiques qui les produisent et qui les vendent. Un hectare de graines enrobées, c'est à environ 70 euros de plus. Les 70 euros rentrent dans la poche des coopératives et puis des vendeurs de pesticides. Ces graines enrobées, c'est un peu le jackpot pour l'industrie, parce qu'avant, quand on attendait qu'il y ait un parasite pour traiter, il fallait que le parasite soit là. Avec les graines enrobées, la décision est prise au semis. Un bon vendeur peut parler de la menace, du risque de parasitisme. Donc c'est une garantie, c'est une assurance, ça vous coûte 70 euros à l'hectare, mais au moins vous êtes assuré, et ça suffit pour que l'agriculteur fasse un chèque, d'où l'augmentation des surfaces. Quoi. Quand on attendait que le parasite soit là, suivant les années, c'était peut-être 10, 20 ou 30% des surfaces qui pouvaient être concernées. Avec les graines enrobées, l'objectif est de couvrir 100% des surfaces semées avec ces graines traitées, même s'il n'y a aucun risque parasitaire. Quoi.
Avec la révolte des apiculteurs, cet été, il y a eu un autre bouleversement près de chez moi. L'installation de Julie sur ma commune. Elle a 32 ans.
Allez là !
Vous êtes Dominique ?
C'est ça.
Le patron de Julie ?
Voilà.
Et alors comment elle est arrivée ici ?
Elle est venue se présenter. Elle est restée une après-midi avec moi, voir comment ça se passait. Et après, elle a décidé de venir là. Et voilà, l'aventure est commencée. De toute façon, je lui avais donné un ultimatum. Un mois, puisque j'ai fêté mes 42 ans. Donc je voulais avoir mon dimanche tranquille. Donc voilà.
Donc fallait qu'au bout d'un mois, elle sache s'occuper de la ferme toute seule.
Pas très à la vache du moins. Parce qu'après, moi, je m'occupais des autres choses, d'alimenter les vaches et faire autre chose. Donc elle s'occupe plus des vaches. Et moi, je vais au champ.
Et ça vous étonne que, alors qu'elle connaissait pas du tout ce milieu-là, elle y arrive?
Bah, apprendre assez si vite que ça, ouais. Parce que j'en connais d'autres, ils sont pas capables d'apprendre aussi vite que ça. La première fois qu'elle reste avec moi, j'ai vu tout de suite que ça allait bien se passer. J'ai vu comment elle met des griffes aux vaches et tout. Je dis ceci, elle n'aura pas peur. Ça se voit à l'œil, hein, tout de suite. Si j'aurais vu manchot, non. Jardiniette.
Ah, t'as vu ça?
Ouais. Tout se voit.
Et alors, au début, il y a des trucs qui t'ont étonné quand vous avez commencé à parler?
Ouais, son chikong, là, ouais. Moi, je trouve ça un peu bizarre, quoi. On dirait un autre monde, presque. Bon, il m'a expliqué, c'est des étirements et des trucs comme ça. La gymnastique, sans doute. Des étirements, qu'elle m'a dit que c'était. On voit personne faire ça ici. On s'étire pas assez, toujours. Toi, tu fais?
Non.
Bah alors?
Et elle a trouvé des trucs bizarres chez toi?
Alors, tu me demanderas. Moi, je braille beaucoup. Ça doit être bizarre, si. Ouais. Ça, c'est un trieux, ça.
C'est Julie qui est en train de traire.
Elle commence, en fait. Je peux répondre?
Ouais.
70. 70, ça fait beaucoup pour un mec tout seul. Tu m'aurais dit pour un couple, ouais. Et moi, comme je suis tout seul, moi j'aurais mis 35 euros, mais 70, toi, ça fait beaucoup.
La journée est finie, ça y est.
Pas trop fatiguée?
Si, je suis morte, mais je suis morte. Il m'est déjà arrivé de lui dire ah, aujourd'hui je suis fatiguée. Parce que les premières fois où il faut pailler, faire de la fourche, mais c'est que ça demande un peu de physique. C'est un super coéquipier, puis il s'énerve jamais sur moi. Même quand il a envie, au pire il s'énerve un peu sur les vaches pour transposer, donc ouf! J'ai quand même beaucoup de chance, et puis il est très patient.
Ça, c'est le chemin que tu fais tous les jours?
Oui. Toujours à pied quand il fait pas, quand il pleut pas. Le bruit du silence du vent, ça fait plaisir. Après, le bruit des barrières en ferraille qui tapent, les vaches qui meuglent, hein, c'est quand même un son conséquent. La salle de traite, plop 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 plop. Voilà, ça fait du bien. Le bruit du vent. Je m'appelle Julie Charlin. Je suis arrivée il y a 6 mois. J'étais potière avant dans la Drôme et j'ai eu besoin de changer de vie. Je ne m'y retrouvais plus dans la céramique. J'avais envie de travailler avec le vivant, de travailler avec des personnes aussi. Fin. Et puis un jour de bonne humeur, je vois cette annonce, cherche vacher, homme-femme, débutant accepté. Oh bah tiens, pourquoi pas? Moi qui ai toujours eu peur des vaches. Donc je réponds, il me propose de venir voir l'exploitation. Donc j'y étais. Bah, je connais pas du tout le monde agricole, mais pas du tout le monde agricole. Je suis quand même arrivée en disant « Oh, je voudrais bien travailler chez vous. » Ah non, mais en fait, j'ai peur, je le sens pas du tout. Enfin, ça aurait pu le gonfler quand même, la perte de temps, d'énergie. Non, 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 il a pris le temps de m'accueillir, de me montrer, il était tranquille. Alors en fait, petit à petit, il m'a mise devant les vaches, il m'a fait passer derrière les vaches, ensuite les nourrir, ensuite la salle de traite, et puis je suis repartie de là, en fait, j'étais hyper contente. Donc j'ai déménagé pour aller faire un essai dans son exploitation. J'ai déménagé dans un appartement communal et voilà. Donc je suis salariée agricole, quoi. Donc je lui ai expliqué en arrivant que ma seule contrainte, ce serait d'avoir un week-end tous les deux mois pour aller à ma formation de Qigong. Et du coup, il me dit « Ah bon, le Qigong, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu une secte ?» Mais non, c'est comme une gym asiatique, une gym d'entretien un peu particulière avec des moments de méditation. Voilà, après, je vais parler un petit peu du principe de la contemplation et puis voilà.
Là, on est sur la place centrale du bourg.
Et c'est là que j'habite, en plein bourg. Salut.
Vous louez combien ici?
325.
Ça fait quelle surface?
90 mètres carrés. Et là, les prix des Côtes d'Armor.
Tu t'appelles comment?
Denis.
C'était mon premier amoureux quand j'avais 13 ans. Lui 17, donc c'était pas que facile. On a passé 6 mois ensemble quand même. C'est long à 13 ans. Et puis après, on s'est séparés, on s'est plus vus, mais on était potes sur Facebook sans se contacter plus que ça. Jusqu'au jour où je reçois un message de Denis. On a communiqué, j'ai dit que j'étais dans les vaches. Lui, ça lui a plu. Les vaches, mais c'est génial. Ah, bon. Bon, voilà. Puis il est passé faire un coucou, puis il est resté.
J'avais mis un statut, une photo dans la forêt ou je ne sais plus quoi, et c'était la première personne à mettre un j'aime ou n'importe sur la publication. Et ce jour-là, tout est revenu. Toute notre histoire, quand on avait du début à la fin, de la rencontre, du premier baiser, de tout ce qu'il y a eu, quoi.
T'étais amoureux ?
Ouais, grave. Et c'est parti de là. Et on a parlé un peu de tout ça, et on a... je sais plus comment c'est venu, mais en gros, je t'ai dit, ben, vas-y, je pars maintenant, quoi. 5 heures de route. Et j'ai débarqué là, à 4 heures du matin en voiture. Et je suis arrivé avec un super jeu de piste. Donc j'ai réussi à garer la voiture au milieu du brouillard. Je rentre, personne, tout noir, donc t'allumes la lumière. Ah. Et à côté de l'interrupteur, éteins cette lumière, allume plutôt celle du bureau. Hop, t'allumes celle du bureau, un autre petit mot qui t'amène vers la table de la cuisine. Hop, il y a à manger, il y a machin, fais-toi plaisir. Enfin, voilà, tout un petit jeu de piste qui était très agréable. Et quand j'ai ouvert la chambre, j'ai passé la tête, j'ai entendu un « Putain, mais t'as la même gueule qu'il y a 20 ans !» Et ça, je m'en rappellerai, mais voilà.
Vous savez, voilà. Parle-nous de la bouche bretonne.
Je sais pas quoi dire.
Parce qu'entre-temps, t'as trouvé du travail.
Ouais, j'ai trouvé du travail dans les 2 semaines, quoi. En agricole, pareil, directement ouvrier agricole.
Et tu faisais quoi en Seine-et-Marne, toi?
J'étais directeur d'animalerie, éleveur de reptiles et artificier. Mais j'étais dans une vie qui ne me convenait pas, quoi, en Ile-de-France. Et ce boulot qui me pourrissait la vie. La route à gogo, 1 heure et demie de route aller-retour tous les jours. Et puis cette pression en permanence de toujours être le meilleur, le machin, le au-dessus de tout le monde pour dire c'est moi qui ai ce poste, c'est moi. Enfin, moi je saturais de tout ça, quoi. Et quand elle m'a dit bah, moi je fais ça, machin, mais c'est aussi la vie que je veux. Et ce qui était génial, c'est aussi de rencontrer quelqu'un qui aime vivre cette vie.
Et ça se passe comment dans la ferme où tu travailles?
C'est top. Il y a du respect, c'est une ferme bio.
Où ils écoutent de la musique.
Ouais, les vaches écoutent de la musique, elles sont détendues, elles sont... Je me rappellerai, la première fois où j'ai été traire là-bas, on m'a dit, putain, mais attends, t'as pas mis la musique, vite, faut mettre la musique, sinon elles vont te le faire payer en arrivant.
Et ça, c'est... De quelle manière?
Ben, en chiant partout, en chiant dessus, parce qu'elles savent viser, ces putes. Elles savent viser et elles lèvent la queue. Quand tu vois la queue se lever, tu te barres vite, mais t'as l'autre derrière qui pisse, l'autre qui chie, l'autre machin, et puis t'es vite pris en otage.
Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique?
Oh, RMN.
C'est non, quoi, non. C'est de la musique bretonne?
Non, c'est une radio, ouais, bretonne, ouais.
Qu'est-ce qu'elles mangent, ces vaches? Qu'est-ce qu'il y a comme culture de céréales?
Ah, il n'y a pas de maïs du tout, anti-maïs, que de l'herbe. Ils appellent leurs vaches par leur prénom. Mes chéris, mes machins, je trouve ça génial.
C'est super chelou.
J'ai vu d'autres endroits où c'est l'usine. La bête, elle est là pour se faire traire, prendre son lait et...
La Bretagne, c'est le château d'eau et le grenier de la France. Donc on envoie de la matière première, puis après on ne sait pas trop ce que ça devient. Ce que je vois ici en Bretagne comme souci, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le producteur et le consommateur. Et que le consommateur aimerait consommer local, le producteur se retrouve à vendre son lait à des grosses laiteries. Ça part pour faire du lait en poudre pour les bébés chinois. Et pour moi, il faudrait un accès direct entre le produit et le consommateur pour que tout le monde soit heureux. En tout cas, une des top idées, par exemple, par rapport au lait, ce serait une petite coopérative fromagère et qui achète le lait à bon prix au laitier et qui fasse un bon produit fini et qui fait que tout le monde puisse retrouver la reconnaissance. Pourquoi ça n'existe pas en Bretagne? Il n'y a pas de fromage breton, c'est quand même fou.
Et vous aimeriez monter ça sur Maël Pestivien?
Mais Maël Pestivien, ce serait magique, c'est le centre de la Bretagne.
Et du coup, toi, ce projet dont elle parle, Julie, ça t'intéresserait aussi?
Moi, si on pouvait monter quelque chose ensemble, ouais, ça me plairait. Ouais. Enfin, on aime tous les deux ce milieu-là et on a un peu ces envies-là. Et en plus, je me dis, bah, nous, on se fait plaisir, mais on fait plaisir aux gens qui vont acheter, là, et valoriser le travail des gens. Ouais. Oui. Ils font un taf de ouf. Je trouve que ce travail-là et ces gens-là ne sont pas assez mis en avant. Je ne vais pas dire on prend les agriculteurs pour des cons, mais...
Oui, ils sont salariés de l'État.
Quoi. Voilà, ils sont salariés de l'État. T'as bien dit le truc. Et la ferme où je suis aujourd'hui, qui est-ce qui est, et celle de Julie, et celle d'autres gens, et machin... Putain, les mecs, ils triment. Ils triment comme des oufs, et... Oui, ils n'ont pas la reconnaissance.
Journal breton d'Inès Leroux, c'était le premier des deux épilogues, un reportage d'Inès Leroux, comme son nom l'indique, réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Jean-Daniel Bourdonnais, à José Nadan, à Dominique Huon, à Julie Charlin et à Denis. L'attaché de production, c'est Jeanne Delecroix et notre stagiaire, c'est Camille Richir. À 15h sur France Culture, la compagnie des auteurs, c'est avec Mathieu Garrigou-Lagrange, mais dans quelques instants, Tiphaine de Rocchini vous présente « Entendez-vous l'écho ?».